de manière complètement différente, le dialogue implicite, voire même explicite là, avec Disney, est une règle générale du cinéma de Miyazaki. Et je vais vous le montrer avec Ponyo. Univers complètement différent, film en apparence qui ne s'adresse pas du tout au même public, et c'est plutôt vrai. Ponyo est un film pour enfants, exactement comme Miyazaki en avait déjà fait deux avant. Un que vous connaissez tous, je pense, Totoro, qui est plutôt fait pour des plus jeunes. Et Kiki la petite sorcière, qui était aussi pensé pour un public plus jeune. C'est très important ça, cette perception, je fais un écart sur le manga, ça vient vraiment de la culture manga. Le manga a vraiment sectorisé des publics auxquels on s'adresse. Tout part plutôt du public des jeunes garçons. Typiquement, le manga le plus connu, et d'ailleurs qui a une sale réputation, comme Dragon Ball Z, avec des combats partout et des personnages très très puissants, ça c'est le manga qui vend le plus, qui est adressé aux jeunes garçons. Mais il y a aussi des mangas pour les jeunes filles, il y a des mangas pour les adolescentes, il y a des mangas pour les adolescentes, des mangas pour adultes, et des mangas pour enfants. Miyazaki, en un sens, répond un petit peu à ces attentes-là du marché. Sauf que vous allez voir que, dans un film pour enfants, Miyazaki s'adresse évidemment, et c'est ce qui fait la marque des plus grands conteurs, à tous les publics possibles, y compris à nous, les adultes. Et Ponyo n'échappe absolument pas à cette règle, et à cette règle que Miyazaki, on en est à son avant-dernier film, il a 75 ans passé, Miyazaki commence à parfaitement prendre conscience de sa place dans l'industrie, mais aussi dans l'histoire du cinéma, et qu'il va dialoguer de manière de plus en plus frontale avec Disney. Je vais vous montrer l'ouverture de Ponyo, le tout début. Ponyo, c'est l'histoire d'un petit poisson à visage humain qui n'a qu'une envie, c'est de sortir à la surface pour aller rejoindre le petit garçon de 5 ans qui s'appelle Suzuki, dont il a fait la rencontre au début du film, et qui n'a qu'une envie, c'est d'aller sortir de son univers océanique pour vivre sa vie d'être humain. Non plus de petit poisson rouge, mais d'être humain. Je pense que rien que d'ici, vous pouvez voir à quel horizon fait Eric, on se compare, où est-ce qu'on va puiser, où est-ce qu'on va se ressourcer. Et vous allez voir que, dès le début du film, on comprend qu'en un sens, Miyazaki dialogue avec plusieurs références occidentales, y compris une référence occidentale d'un film sorti en 2003, un film américain sorti en 2003, qui a marché partout sur la planète. Et vraiment, je pense que Ponyo est l'envers de ce film-là. Et c'est très intéressant, pas simplement de constater qu'on dialogue, mais pourquoi Ponyo est l'envers de ce film-là ? Pourquoi Miyazaki s'attache, d'une part, à dialoguer avec Disney, mais à en être une contre-proposition ? Vous allez voir que c'est très intéressant, évidemment, de constater que tout est dès l'ouverture. Je vais donc vous montrer cette ouverture où on a un personnage de sorcier, sous-marin, qui est en fait le géniteur, le père de Ponyo, mais pas que de Ponyo, en fait, c'est un sorcier qui crée tout un tas de créatures. Et vous allez voir que, très vite, le personnage de Ponyo se caractérise par un désir, une volonté, qui est en fait sa seule volonté, son seul désir dans tout le film, celle de s'échapper du contrôle et de l'autorité de ce père-là. Je vous montre ça, c'est l'ouverture du film. Alors c'est une ouverture assez abstraite que je trouve très très belle. De toute façon, Ponyo est assez abstrait comme film. Mais c'est une ouverture que je trouve très belle justement parce qu'elle insiste sur l'abondance. C'est comme s'il avait cherché, Miyazaki, d'emblée à vous mettre le maximum de créatures possibles en un minimum de temps. Qu'il avait essayé de vous enchanter, de vous émerveiller avec un maximum de créatures le plus vite possible. Et c'est ça que je trouve très beau. C'est que là où Chihiro dialoguait un petit peu avec le conte occidental et Disney de manière indirecte, on part d'un parc d'attractions, on joue avec les conventions du conte à l'occidental, ici il y a vraiment une volonté de dialoguer directement. C'est-à-dire qu'une des choses d'ailleurs que je pourrais faire avec des enfants si je leur montrais cet extrait-là, un peu à la manière de petits enquêteurs, je leur dirais, bah, moi en tout cas je vous le dis, je vois deux références assez explicites à des histoires que vous connaissez. Que ce soit en film ou en conte pour enfants, il y en a deux que vous connaissez là. Et je leur demanderai lesquelles c'est. C'est quoi les deux références un peu évidentes? Voilà, il y en a une plus évidente que l'autre, c'est La Petite Sirène. Or, Disney, il en a fait... Alors d'abord, c'est un conte d'Andersen, bien sûr, mais Disney en a fait une adaptation en 91, ou en 89, je ne sais plus, en tout cas au tournant des années 90, qui a connu énormément de succès, et qui était voilà, la référence en matière de Petite Sirène. Et il y a une deuxième référence pour moi. On est en 2008... En 2008, et avec Disney, il y a d'autres studios qui se sont mis à faire des films très populaires. Bah oui, bien sûr, c'est évidemment Nemo, un autre voyage, et un voyage dont j'adore comparer le début avec celui-ci. Tout ici se distingue de Nemo. Il n'y a absolument, évidemment, il y a des grosses références. Vous êtes sur une histoire de poisson rouge d'un côté, vous avez un autre petit poisson rouge de l'autre. Un poisson rouge humanisé d'un côté, un poisson rouge qui a littéralement un visage humain de l'autre. On n'est donc pas très loin. Et surtout, le début de Nemo, c'est quoi? Alors, pas le tout début, mais en gros, là, le récit de Nemo se lance sur l'idée que Nemo s'égare, perd, sort entre guillemets du contrôle de son papa qui va essayer d'aller le sauver, le récupérer. C'est donc un petit garçon, Nemo, qui va se laisser dériver par je ne sais plus quel accident, et son père va essayer de le rechercher. La quête de Nemo, c'est un père qui, un petit peu angoissé, d'ailleurs, vous savez, le père de Nemo, il est caractérisé comme un peu flippé, un peu angoissé, il a perdu sa femme, on s'en souvient au début, c'est pour ça qu'il est très très maternant avec Nemo, et donc il va essayer de rechercher son petit garçon. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a tout l'inverse. On a un personnage, déjà qui n'est pas un petit garçon, on va découvrir que ce petit personnage que vous avez découvert, c'est plutôt une petite fille. Plus tard dans le récit, elle va se transformer littéralement en petite fille, une fois qu'elle est à l'extérieur de la mer, sur la terre ferme. Et puis c'est un personnage dont tout nous dit... Ouais, on entend pas mal Christian, là. Christian ! On t'entend ? C'est pas inintéressant ce que tu racontes, mais ça ne concernait plus Miyazaki. Et donc, vous avez un personnage de petite fille qui vous montre quoi? Qu'elle n'a qu'une envie, c'est, contrairement à Nemo, de s'émanciper le plus vite possible de l'autorité de celui dont on ne sait pas encore que c'est son père. D'ailleurs, on dirait que c'est plus une espèce de geôlier qui surveille un petit peu comme ça. Elle n'a qu'une envie, c'est de découvrir le monde. Vous avez donc une petite fille qui n'a qu'une envie, qui est de découvrir le monde. Et donc, de sortir, de s'émanciper de l'autorité de son géniteur, dont on va comprendre plus tard que c'est un papa. Là, on ne comprend pas trop, parce que comme souvent chez Miyazaki, le personnage est un peu indiscernable. Ça pourrait très bien aussi être une femme, en quelque sorte, avec sa grande chevelure, comme ça. Vous allez voir que c'est juste sa voix, et bien sûr, la suite du récit qui nous montre que c'est un homme. Et c'est très important que ce soit un homme. Parce que vous allez voir que le film, contrairement à Nemo, qui en fait était qu'une histoire de papa et de son petit garçon, est tout entier voué à l'eau du féminin. Le film est tout entier voué à la célébration des puissances fertiles de l'animation, mais aussi de la mer et de la nature. Et toutes ces puissances-là, chez Miyazaki, il n'y a aucune ambiguïté. Et vous allez voir que c'est presque le film le plus violemment féminin et anti-mec. Vous allez voir qu'il n'y a aucune ambiguïté. Ces puissances-là sont du côté du féminin chez Miyazaki. Et de manière, alors là, vous allez voir que c'est hautement glorieux et métaphorique. Vous êtes donc avec un petit poisson qui n'a qu'une envie, c'est de se libérer de l'autorité de son père. Complètement différent de Nemo. Mais il y a encore une deuxième différence avec Nemo. C'est la plus importante, je pense. Et c'est là que je vous emmenais depuis le début avec la comparaison avec Disney. C'est quoi la deuxième différence la plus importante? On est en 2008, Nemo c'est 2003. 5 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé entre, disons, 95, Toy Story, et aujourd'hui? Et bien sûr, 2008 avait bien compris que cette évolution était en marche, était même déjà actée. Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue du cinéma d'animation, puisqu'on parle de cinéma d'animation? Il y a une grande différence entre Nemo et Ponyo. Oui. La 3D, vous allez un peu vite. Les enfants, c'est marrant, parce que souvent, quand j'ai affaire à des enfants et que je leur demande ça, on me dit « oui, bah la 3D ». Oui, bah la 3D, comme si, oui, bah la 3D, avant il y avait de la 2D, c'est juste une question de numéro, quoi. Ah non, c'est toute une industrie qui a évolué. Ce n'est plus du tout le même métier. Vous avez, comment ça s'appelle ça? Du dessin animé. Vous avez un studio qui tient à faire perdurer une tradition magique, féerique, qui est celle du dessinateur. Et d'un côté, vous avez un studio, Disney, Pixar c'est Disney, hein. Depuis le début, Pixar c'est bien sûr... C'est une morale, c'est un genre de film, c'est vraiment, il y a une identité Pixar. Ça a toujours été produit par Disney. Pixar, et c'est d'ailleurs les premiers qui le font, impose une autre manière de faire naître des personnages qui n'existaient pas dans le réel. Une manière qui provient des ordinateurs, et donc d'autres compétences, et donc mobilise d'autres savoir-faire. Miyazaki a toujours refusé, jusqu'à aujourd'hui, hein, d'incorporer, en tout cas de faire du cinéma d'animation numérique. Il incorpore des éléments numériques parfois pour les besoins de son récit. Dans Chihiro, il y en avait déjà. Dans Ponyo, il y en a un tout petit peu, je crois. Mais c'est évidemment relégué à la portion hyper congrue de un univers où on est d'abord, on affirme d'abord les puissances de l'animation dessinée. On est ici dans du dessin animé. Et d'ailleurs, cette séquence, moi, pourquoi je l'aime bien ? Parce qu'on est sur un personnage dans lequel, en quelque sorte, Miyazaki se compare. Ce personnage de sorcier qui fait naître des couleurs, qui admire tout un tas de poissons qui lui passent au-dessus, qui est à la fois spectateur et créateur de ses propres créatures, c'est bien sûr un personnage dans lequel se reflète Miyazaki lui-même. Et le disait, je suis un peu ce personnage-là. Je fais naître des univers avec ma mine de charbon, et puis ensuite avec Ghibli, on arrive à leur donner naissance, évidemment avec beaucoup de travail. Mais c'est ça la magie que Miyazaki a envie de faire perdurer. Et j'ai presque envie de vous dire, je vous disais depuis le début, le rapport entre Miyazaki et le manga même, et Disney, est complexe. C'est pas un rapport d'opposition, c'est d'abord un rapport d'admiration. En quelque sorte, j'ai presque envie de le dire, et je vous le dis, moi je l'affirme, je pense que Miyazaki aujourd'hui est plus fidèle au Disney des origines que Disney lui-même. Le Disney des origines, c'était d'abord la sidération devant la sophistication d'une animation, la sophistication devant Blanche-Neige et les Sept Nains, devant Bambi qui se réveille et qui naît et qui agite ses pattes avec une fluidité absolue. Fantasia, c'est Disney qui célèbre les puissances de son industrie et qui est celle de l'animation. C'est la magie de l'animation, la féerie de l'animation. Aujourd'hui, Ghibli, dans un film comme Ponyo, nous dit que c'est lui. Lui et d'autres, mais lui, qui est peut-être le meilleur héritier du Disney des origines. En tout cas, le meilleur héritier du choc esthétique qu'on ressentait devant le Disney des origines. Et il a envie de faire perdurer cette tradition-là. Évidemment, là je vous fais un écart industriel, mais c'est toujours important de se poser des questions de cinéma. Ça, c'est des vraies questions de cinéma. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile de faire naître Ponyo plutôt que de faire un film d'animation numérique. C'est devenu beaucoup plus difficile. Et j'ai même envie de dire que les Japonais continuent de porter, vaille que vaille, comme ils peuvent, le flambeau de cette animation-là. C'est les derniers qui le font, hein. En France, on fait quelques films, mais ce sont des auteurs dans un cadre indépendant. On n'a pas de studio Ghibli. Kirikou, c'est 4 ans de travail, mais c'est 4 ans de chaos pour le financer. Ghibli, c'est structuré autour d'un studio qui essaie de faire perdurer cette tradition-là. Ponyo, je pense, 5 ans après Nemo, dialogue aussi avec cette histoire-là. Le vrai héritier de Disney, c'est moi. Le vrai Disney, Walt, tonton Walt, c'est moi le vrai héritier. Après, bien sûr, dialoguer pour dire ça, mais dialoguer, souvenez-vous, toujours rapport changeant et complexe, pour aussi dire qu'on n'est pas du tout chez Disney. Que ici, le rapport à la féerie va être complètement renouvelé, complètement différent, alternatif. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très beau. Vous êtes dans un film pour enfants, ouverture d'un film pour enfants, vous venez de voir des petits poissons super mignons avec des têtes humaines. Oh, c'est mignon. Et bien évidemment, vous êtes dans un film pour enfants, donc il n'y a pas ce grand tabou des films pour enfants, et c'est bien normal, on a affaire à des enfants, il n'y a pas de sexe. Pour autant, je pense que là, vous venez de voir une scène qui est une ode à la fertilité. Je pense même que vous venez de voir une espèce de scène qui tourne à l'enfantement. Mine de rien, c'est très métaphorique, c'est très symbolique, mais quand vous voyez apparaître Chihiro, elle sort d'un bateau et puis viennent avec elle tout un tas de petits Chihiro qui viennent souligner... Ponyo, pardon, excusez-moi. Ouh là là, oui. La semaine dernière, j'arrêtais pas de faire le jouet. Tout un tas de petites Ponyo qui viennent signifier l'extrême fertilité de cet univers, l'extrême fertilité autour du monde de Ponyo. Ponyo n'est pas seule, elle est escortée de tout un tas de petites Ponyo qui d'ailleurs ne vont pas cesser de l'aider. On est ici dans une ode aux puissances, j'ai presque envie de dire, de l'enfantement. Évidemment, écartée de toute allusion sexuelle, bien sûr, nous sommes ici dans un conte pour enfants, mais c'est quelque chose de très fertile. Il y a aussi ici l'idée de se distinguer de Disney où on est dans un univers quand même féerique, mais qui rime avec quelque chose de beaucoup plus puritain et arrêté. Chez Miyazaki, tout n'est que fertilité, la nature n'est que puissance d'enfantement. Et vous allez voir que tout le film tourne autour de cette notion de fertilité, de puissance d'enfantement, et de qui détient les puissances de la fertilité de l'enfantement, et donc qui détient les rênes du monde. Eh bien, s'il y a bien une chose qu'on peut affirmer très très vite dans le film, c'est que ce ne sont pas les hommes. Et je vais vous le montrer avec une séquence qui apparaît 10 minutes après ça, où on pourrait vraiment dire que vous allez voir à quel point les hommes ne seront pas du tout les personnages principaux du film. Là, vous allez voir que les hommes vont être littéralement écartés par la fiction du premier rang du récit. Je vais vous montrer donc un extrait où vous allez avoir affaire à plusieurs hommes et à plusieurs figures paternelles. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est la mise en parallèle du rapport qu'ont les personnages à ces figures-là. Je vous le montre donc, c'est donc, vous allez découvrir, mais de très très loin, le père de Sosuke, le petit garçon dont Ponyo tombe amoureuse, et vous allez découvrir, évidemment, la relation un peu rebelle, un peu adolescente, de Ponyo à son propre père, donc le sorcier que vous avez découvert au début. Je vous montre ça, et on voit ce qu'on en déduit. Père de Ponyo, qui est présenté pourtant comme une espèce de géniteur très puissant, qui a d'ailleurs des projets démesurés, hein. Vous avez compris ce qu'est son projet, c'est que lui c'est un ancien humain, on ne sait pas trop encore comment, mais qui a été doté de pouvoirs magiques, qui pratique la sorcellerie, et qui n'a qu'un projet, recouvrir la surface de la Terre, et donc l'humanité qui va avec, sous l'eau. Et donc, faire régner à nouveau l'ère, ce qu'il appelle du dévonien. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle l'ère où la planète était intégralement recouverte d'un océan. Mais en tout cas, il veut célébrer le retour de l'ère du dévonien, où ne régnerait plus que des poissons, ce qu'il va réussir à faire d'ailleurs. Et donc on est dans une espèce de fable dont le méchant, qui n'est pas vraiment une figure de méchant, a un projet extrémiste. C'est-à-dire qu'on est vraiment, il a un projet écolo au niveau le plus extrême possible. Ce qui là encore est assez, un peu une règle générale du cinéma de Miyazaki, c'est que ce qui animait ses personnages précédents, même quand ils pouvaient avoir des élans un peu extrémistes, peut être totalement démenti dans le film d'après, et peut être nuancé ou traité sous l'angle de la complexité. Parce que mine de rien, vous êtes ici bien sûr dans une fable écologique, toujours. On est du côté des poissons, on est du côté des puissances de la vie. Ce qu'essaie de faire triompher ici Ponyo, vous l'avez compris, c'est l'inverse du projet de son père. Elle veut regagner la surface de la Terre. Elle veut vivre parmi les hommes. Autrement dit, elle veut les aimer. Elle aime Sosuke. Elle est tombée amoureuse d'un être humain. Elle n'est pas du tout dans une... Elle n'est pas vraiment... Elle ne répond pas du tout au penchant, même ouais, je disais extrémiste, mais voilà, c'est l'écologie sous sa forme la plus... on fait table rase et on extermine l'humanité, quoi. Ponyo, pas du tout. Ponyo, et vous allez voir toutes les petites Ponyo qui l'accompagnent, et aussi, vous allez le découvrir tout à l'heure, la mère de Ponyo ne sont pas du tout du côté de la destruction. La destruction chez Miyazaki est très souvent du côté du masculin. Très souvent du côté des hommes. Pas toujours. De la même façon qu'il y a une espèce de météo très changeante des caractères et du moral des personnages dans Chihiro et dans toute son œuvre, il y a aussi une vision très équitable, très paritaire des puissances de la destruction. Par exemple, dans Mononoke, Princesse Mononoke, la méchante, celle qui cherche à détruire la forêt, est une femme qui a à sa botte une armée d'hommes. Mais ici, vraiment, de la façon la plus, je dirais, la plus tranchée, dans Ponyo, les puissances de la destruction sont du côté des hommes. Les puissances de la fécondité, de la fertilité, de la vie, du triomphe de la volonté et de la volonté de vivre sont du côté du féminin. Vraiment. Et c'est très beau parce que c'est bien montré ici avec le père de Sosuke, qui moi j'aime beaucoup cette scène, je trouve qu'elle est très belle. C'est que le père de Sosuke, vraiment, on vient de nous dire que là, le papa de Sosuke serait vraiment réduit à un statut d'extrême figurant. C'est-à-dire que vous n'allez même pas le voir. Il est réduit à un signal lumineux. Il n'aura pas de présence corporelle dans tout le film. Et vous n'allez pas le voir, le père de Sosuke. Il va être un figurant de l'histoire. Le premier rang des acteurs, c'est Ponyo, Sosuke, Lisa, la mère de Sosuke, qui n'est même pas d'ailleurs qualifiée de maman. Elle n'est pas appelée maman. Le père, on dit papa. Lisa, on dit pas maman. Peut-être qu'on pourrait se demander pourquoi. Peut-être qu'il s'agit... Moi, j'ai pas de réponse définitive. J'ai cherché. Et en fait, j'ai jamais trouvé la réponse. Et je pense que c'est parce qu'il y a la volonté chez Miyazaki de ne pas la traiter comme... de ne pas l'assigner à son rôle de maman. Je pense que c'est d'abord un personnage qui est qualifié. D'ailleurs, vous allez le voir, qui est caractérisé par son intrépidité. Elle n'a pas besoin d'homme. Elle n'a pas besoin d'homme pour s'en sortir. Et d'ailleurs, elle n'a pas besoin de ce père qui ne revient même pas parce qu'il est avec tous les hommes dans des bateaux. Et puis, il y a ce père qui est vraiment, ici, dans cette scène, l'incarnation de l'autorité paternelle, masculine, qui cherche constamment à remettre Ponyo dans des cadres. Ça, c'est assez joliment mis, qui cherche à la maintenir, à la préserver, en la remettant dans des cadres, dans des petites prisons. Vous savez, il la maintient sous une bulle dont elle essaie de s'échapper, puis ensuite il prend la bulle, il l'endort, il la remet dans une autre bulle, et quand vous constatez en fait dans quel environnement ils sont dans une espèce de grande cavité qui est elle-même une bulle. C'est vraiment l'idée que Ponyo essaie toujours de s'échapper de tous les cadres dans lesquels on cherche à l'enfermer. Et vous allez voir dans la séquence d'après que je vais vous montrer qu'elle va non seulement y arriver, mais qu'elle a le pouvoir d'y arriver, et que tout le film est dédié à ce sujet très abstrait finalement, et en même temps très concret parce que c'est dans un film pour enfants, et c'est, comme toujours chez Miyazaki, très explicite, tout le film est dédié à la célébration de cette puissance de vie, à cette volonté de faire triompher son désir à soi. Et donc les puissances du désir et de la vie, c'est toujours les puissances de la volonté, et c'est toujours, vous allez le voir, là encore, du côté du féminin. Et vous allez voir que là encore, ce qui, disons, Disons que chez Miyazaki, je vous disais, il y a toujours un peu une ambivalence. Les rôles sont très partagés, et une femme peut très bien avoir le rôle d'un homme et partager l'intrépidité d'un homme. Mais il y a quand même des règles générales, c'est que l'idiotie, la vulnérabilité et la fragilité, voire le ridicule, sont plutôt du côté du masculin. Et vous allez voir ici que c'est le cas, puisque Lisa a une mission, Ponyo a une mission, on essaie de les en empêcher. Ça ne marche pas du tout, puisque Lisa et Ponyo sont ici détentrices de la volonté, de la force, et c'est vraiment une ode à ce pouvoir-là. Alors vous allez voir qu'il y a une scène, une très très belle scène de chevauchée de Valkyrie, qui est très explicite dans sa volonté de montrer que, bon, c'est un proverbe à la con, hein, mais ce que femme veut, Dieu le veut, là vraiment, vous allez voir que c'est vraiment l'incarnation de, enfin, le sujet de cette séquence. Je vous la montre, et donc Ponyo veut à tout prix rejoindre Sosuke, tellement qu'elle provoque un ouragan. Et Lisa, la mère de Sosuke, veut à tout prix protéger Sosuke de l'ouragan, tellement qu'elle brave les interdits de qui l'obligerait à rester dans la maison de retraite où elle travaille, on l'empêche de rejoindre sa propre maison, mais évidemment, les barrières que les gendarmes et que les ordres qu'on essaie de lui imposer, elle ne les respecte pas. Je vous montre ça, et c'est vraiment, on est au cœur du sujet du film. Tout ça pour un gros câlin d'amour. Mais c'est évidemment toute la beauté de la scène et ce vers quoi vous achemine Miyazaki, puisque toute cette volonté, c'est le triomphe, c'est littéralement une scène de triomphe de la volonté. On est sur une musique qui reprend la variation de la Valkyrie de Wagner, de la chevauchée. On est vraiment ici du côté des puissances qui nous emportent, et des puissances, vraiment. On est du côté de la puissance. Mais puissance de quoi? Évidemment, puissance de l'amour, puisque Ponyo, ce qu'elle souhaite à tout prix rejoindre, c'est juste Sosuke pour ce câlin. Ce qui est très beau, ce qui est très mignon, c'est ici qu'on est vraiment dans le film pour enfants, on est dans l'esthétique kawaii, vous savez, le mignon, qui est peut-être atteint ici des sommets absolus chez Miyazaki, et peut-être même dans le kawaii tout court. Mais mignon, mais qui n'en va pas sans sa part de terreur quand même, hein, parce que avec la puissance vient aussi quelque chose de très ambivalent, qui est certes, c'est plein de bonnes intentions et c'est tourné vers la vie, mais on déclenche un ouragan. On déclenche un ouragan qui, un peu plus tard dans le film, vous le verrez, va ensevelir la surface de la tête, de la petite ville vallonnée de Sosuke et de Lisa. Puis ce qui est très beau, c'est évidemment que les puissances ici accèdent vraiment à une dimension un peu plus essentialiste, où vraiment c'est des puissances qui sont du côté des personnages féminins. C'est-à-dire que la puissance de Ponyo répond bien sûr à la puissance du personnage de Lisa qui, elle, défie les règles, défie l'autorité, défie les ordres. Non, je ne vais pas attendre, puisque j'ai envie de rejoindre chez moi, j'y vais. Évidemment, on fait courir en parallèle ces deux puissances presque contradictoires, en fait, puisque Lisa essaie de protéger Sosuke, qui est en fait pris d'assaut par quoi? L'amour envahissant de Ponyo. Lisa protège Sosuke de Ponyo, et en fait, les deux arrivent à leur fin. Ponyo va finalement arriver à son câlin d'amour, et Lisa va protéger les deux. Très bien. Triomphe de la volonté féminine. Je pense vraiment que c'est l'enjeu de cette séquence. Mais ce qui est très beau, c'est que cette volonté, elle va très très loin, et c'est là qu'on accède presque chez Miyazaki. On l'avait déjà compris dans Mononoke, qui est peut-être, dans ce que ça raconte, le film le plus proche de Ponyo, bizarrement, alors que c'est très adulte, très violent, Mononoke. Mais on approche ici de, justement, la philosophie un peu animiste du cinéma de Miyazaki. Je vous disais, tout est un peu de l'ordre du syncrétisme. On pioche un peu partout, et puis on agrège toutes nos influences au carrefour d'un univers qui devient l'univers de Miyazaki. Original, authentique. Là, c'est un peu pareil, mais à l'échelle de la vie et de la terre et d'un peu de tout. Mais Ponyo, là, qu'est-ce qui se passe? Ponyo, elle réagit en tant que poisson, en tant qu'être du vivant, avec les hommes. Et évidemment, des ponts se font, les frontières sont complètement évanouies. Et puis, il y a cette très belle idée, je trouve, ici, qui est très très bien résumée, que Ponyo, par la seule puissance de sa volonté, comme elle veut devenir humaine, on vous montre, en fait, qu'elle franchit en accéléré toutes les étapes de l'évolution. Vous savez, elle passe de poisson à figure un peu intermédiaire où elle a des pattes d'oiseau un peu, et elle finit en être humain, comme si par la force de sa volonté, vraiment la puissance de ce qu'elle veut, elle arrive à franchir toutes les étapes de la création, quoi. Elle passe vraiment de manière très darwiniste, elle passe de la petite créature élémentaire de l'ère du dévonien au volatile, à l'être humain, homo sapiens achevé, qu'elle voulait devenir puisqu'elle est tombée amoureuse d'un être humain, de Sosuke. Et vraiment cette idée chez Miyazaki que la volonté et l'amour sont à la source de tout, et que la puissance se trouve d'abord là. Et puis, il y a aussi cette très belle idée qu'on retrouvait, vous vous souvenez, dans Chihiro, que la scène est vue de deux points de vue différents. Lisa, qui est focus sur sa mission, qui est de sauver, déjà de préserver leur intégrité physique, il y a d'énormes vagues qui leur arrivent dessus, et qui veut arriver au bout de son objectif. Lisa, elle est dans la conduite, elle a une mission, elle ne fait pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Et il y a évidemment le point de vue de Sosuke, 5 ans, enfant, qui lui voit un peu plus, regarde un peu plus, est plus attentif. Et c'est bien sûr Sosuke qui voit la petite fille qui est en train de courir à pieds nus sur des vagues. C'est lui qui voit, c'est toujours Sosuke, c'est toujours les enfants qui dédoublent le monde de leur féerie. La féerie n'est pas tant dans ce qui se passe. Quand vous voyez, le film est très bien mis en scène, parce que vous voyez des gros poissons quand vous êtes du point de vue de Sosuke, et quand on est du point de vue de Lisa, on voit que ces gros poissons peuvent être confondus tout simplement avec d'énormes rouleaux de vagues. Quoi. Du point de vue de Lisa, c'est juste des vagues. Et du point de vue de Sosuke, ce sont des gros poissons. Et dans ces gros poissons, il y a Ponyo. Et Ponyo rejoint Sosuke, et à partir du moment où on arrive dans le monde de Lisa, sous le regard de Lisa, passe à créature humanoïde, être humain, homo sapiens. Comme si la féerie était vraiment... Ce qu'on nous dit là, c'est que la féerie est d'abord dans le regard des enfants. C'est eux qui dédoublent le monde par leur imaginaire. Et ça, c'est très... On peut l'analyser avec les enfants. À quel moment Ponyo devient un être humain quand il va devenir évident qu'elle va rentrer dans le regard de Lisa, l'adulte. Et donc, il faut redevenir un être humain. Il faut devenir un être humain. On est dans sa phase poisson et dans sa phase petit Ponyo, avec une tête d'homme, humaine, que quand on est sous le regard de Sosuke. Ce sont les enfants qui émerveillent le monde, ce sont eux qui l'enchantent. Et vous allez voir que juste après, ça c'est très très beau, je trouve que c'est une des plus belles scènes du film, juste après, alors qu'on vient de traverser une Valkyrie, une scène tempétueuse, spectaculaire dans tous les sens du terme, terrifiante, on va avoir une scène qui est littéralement son envers de retour au calme. On va passer la porte de la maison juste après là. Et puis Ponyo va découvrir la vie de Sosuke, c'est-à-dire la vie en fait d'un petit japonais de 2008 qui vit avec sa maman dans une maison. Et vous allez voir que ce qui est très beau, c'est que là encore, on va être du point de vue des enfants, et même du point de vue de Ponyo qui découvre ce monde. Elle vient des profondeurs. Hein. Et donc, on va abandonner la tempête, mais on ne va pas abandonner la féerie. Et c'est là, bien sûr, que Miyazaki va nous donner une petite leçon d'humilité, un peu pas très loin finalement de celle de Chihiro. Je vous laisse regarder la séquence et vous allez voir que, certes, la tempête, l'immensité, les rouleaux ont disparu, mais l'émerveillement, lui, n'a pas disparu. Mais un émerveillement qui, cette fois-ci, ne prend pas pour objet le déchaînement des éléments, mais juste, par exemple, des nouilles qu'on va faire chauffer, une lumière qu'on allume, un générateur électrique qui redémarre. Vous allez voir une espèce de petit balai des choses simples qui prennent, là aussi, un tour merveilleux une fois qu'on est dans le regard des enfants. Je vous montre ça. Moi, j'aime beaucoup cette scène. Donc, c'est après tous ces torrents-là. Évidemment, tout l'intérêt de cette scène est d'être après la grande tempête que vous venez de voir, puisqu'en fait, vous assistez là encore à des événements magiques. Ce qui est très beau, et d'ailleurs on peut le comparer avec les enfants, à quoi ressemble la préparation assez longue, alors que c'est complètement banal et anodin, à quoi ressemble la préparation des nouilles, quand c'est la maman qui les fait? Ça ressemble un peu à un tour de prestidigitation. Elle est un peu dans un personnage de magicien. Souvenez-vous, le film s'ouvre avec un magicien qui fait des choses merveilleuses. On voit des créatures, il les photographie, peut-être qu'il les... radiographie, on ne sait pas trop, ça paraît merveilleux et féerique, eh bien vous retrouvez exactement la même source d'étonnement et d'émerveillement avec une préparation de nouilles. Le jambon suscite le même étonnement, la même surprise que l'apparition de rouleaux tolentiels et d'une petite fille qui marchait dessus. Vous êtes exactement dans le même message, qui est que la magie se trouve d'abord dans l'œil de celui qui s'étonne. Et ici, Miyazaki nous incite, peut-être là moins les enfants que le spectateur adulte, à savoir conserver cette puissance, ce pouvoir qui est celui d'apprécier le merveilleux dans les petites choses, le merveilleux dans l'ordinaire. Et évidemment, cette scène est intéressante parce que tout le film se joue sur un mode majeur, se joue sur un mode colossal. On est toujours dans l'ordre du gigantesque, du monde entier, du dévonien, de l'océanique, et vous allez voir qu'avec ce mode-là arrive évidemment des personnages aux proportions, puisque nous parlons depuis le début de pouvoir magique, de puissance, de défier les lois de l'évolution. Bon, à l'origine de tout ça, évidemment, il y a une divinité, une grande divinité, qui va vous être représentée, évidemment. Alors là, on ne peut pas faire plus glorieux, mais vraiment comme une espèce de divinité qui est la mère de toute chose et qui est en fait la divinité de l'océan, qui s'appelle d'ailleurs grande mamar, un peu pour reprendre l'italien auquel va beaucoup se ressourcer Miyazaki. Miyazaki va beaucoup se ressourcer dans, je vous le disais, les légendes, les contes, les univers européens. Donc elle s'appelle Grande Mamar. Et cette divinité, vous allez voir, c'est peut-être la scène qui achève de mettre à mal le masculin et la gente masculine, qui va être présentée en regard du père de Ponyo et du père de Suzuki. Ce sont le père de Ponyo et le père de Suzuki qui la voient arriver. Et vous allez voir que ça va être, in fine, la célébration du féminin qui va nous acheminer, bien sûr, à ce dont nous parle Ponyo. Et je vous laisse le découvrir avec cette scène-là. Vous allez donc faire la rencontre de la mère de toutes choses, la mère de Ponyo. Et vous allez voir, évidemment, ce qui est intéressant, c'est comment la mère de Ponyo, qui est donc plutôt du côté des puissances, ben, complètement du côté des puissances de la vie, va éteindre les énergies et les projets du sorcier, du père de Ponyo. Vous allez voir, c'est très très drôle, c'est traité sur un angle comique, littéralement, comment elle fait chuter de son piédestal le sorcier qui avait des projets beaucoup moins du côté de la vie et beaucoup plus destructeurs. Vous allez voir, évidemment, tout ça est perceptible par des enfants de CP et CE1. C'est très compréhensible et c'est très bon. Bon, c'est la scène la plus licorne du film, hein, qui ne manquera pas de plaire aux petites filles, sans vouloir préjuger de leur goût, bien sûr. Mais j'ai fait de l'animation en tant qu'animateur, centre de loisirs, et je sais quand même que le licorne, ça plaît pas mal. Et donc, moi, voilà, c'est totalement, je dis évidemment que Miyazaki flatte ici son auditoire de petites filles, et que, comme souvent d'ailleurs dans son cinéma, c'est encore une fois une règle générale, chez lui, la guerre des sexes tourne très très souvent à l'avantage des femmes. Et je trouve qu'ici, la scène de la confrontation des deux autorités parentales n'est pas vraiment une confrontation, c'est plus une grosse scène d'humiliation. Et d'ailleurs, c'est une scène traitée sous l'angle comique de l'humiliation de l'autorité, c'est l'effondrement de l'autorité patriarcale, littéralement, puisque le père essaie de récupérer sa fille, un peu comme dans un conte de fées, vous savez, où il est soulevé par des vagues, et puis il tombe parce que les mini-pognos viennent le faire s'effondrer, lui tomber de son piédestal, et puis derrière, il est totalement intimidé par l'apparition gigantesque, démesurée, qui laisse deviner l'immensité du pouvoir de cette divinité qui est, on le comprend, son épouse, en tout cas la mère de Ponyo. Vous êtes donc ici vraiment dans une scène, et s'il fallait le traduire pour des enfants, vraiment on pourrait jouer à ça. On est dans un film dont les gammes sont, comme on est sur un paysage de maritime, balnéaire, on est beaucoup plus sur des gammes sombres. En fait, la gamme dominante du film est plutôt sombre, on est sur le bleu marine, on est sur le vert tendre, même vert assez profond. Et là, vraiment, toute la séquence vient se colorer, se draper du rose des cheveux de la divinité maternelle, du rouge de ses lèvres, qui rappelait bien sûr le rouge de Ponyo elle-même. Et je sais, alors, c'est pas une constante, mais ça arrive souvent quand même dans les films de Miyazaki et du studio Ghibli. Le rose et le rouge sont assez souvent associés au féminin et aux puissances de la création. Je pense par exemple à un film qui a été, je pense, très inspiré de... Alors ça paraît bizarre parce qu'ils n'ont rien en commun, mais je pense à un film qui a été très inspiré de Ponyo. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu La Tortue Rouge. Il était au dispositif, alors plutôt pour collège, bon. En tout cas, c'est un film d'animation qui a été fait par un Européen qui s'appelle Michael Dudok de Witt. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça a été produit par le studio Ghibli. Or, La Tortue Rouge, littéralement, donne naissance à un personnage féminin qui a exactement un peu les couleurs de Ponyo. Puis un peu les couleurs, on voit que les couleurs de Ponyo viennent de sa maman. Et que le rouge, comme ça, les gammes du rose et du rouge viennent peu à peu envahir le film pour définitivement le couvrir de cette tonalité. Et tonalité qui, je vous rappelle, le sujet du film, consiste quand même à faire triompher, vraiment, j'insiste sur la notion de triomphe, les puissances de la vie et de l'amour. Là, vous l'avez vu, le discours de la maman, qui pourtant est très intimidante, vont plutôt vers la curiosité, les puissances de la vie, et éteignent, littéralement de la main, hein, viennent étreindre et plutôt éteindre la flamme un peu plus vindicative, autoritaire, destructrice du personnage du sorcier. Et c'est assez intéressant à mettre en parallèle avec le film d'après de Miyazaki, que vous n'allez pas montrer aux petits parce que c'est un film pour les adultes, celui-ci, vraiment, je pense, pour un public adulte, qui s'appelle Le Vent se lève, et qui est le seul, en fait, film de Miyazaki où Miyazaki adopte une esthétique et un récit réaliste, même autobiographique, puisqu'il s'agit du récit d'un de ses aïeux, je crois que c'était son oncle, qui était l'ingénieur qui a contribué à dessiner les avions Zéro. Les avions Zéro, vous savez, c'est les avions qui ont été utilisés par l'armée japonaise au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Or, qui dit avion Zéro, qui dit armée japonaise, dit bien sûr Pearl Harbor, dit bien sûr toute une histoire que vous connaissez, les kamikazes, et donc un personnage qui avait contribué littéralement à l'effondrement du Japon et à la destruction et à la guerre. Un personnage qui, à son corps défendant, en fait, lui, c'était un rêveur, c'était un ingénieur, il avait contribué à détruire. Or, dans ce film, où en fait, on suit le récit de quelqu'un qui va participer indirectement à la guerre et donc à la ruine du Japon, Le Vent se lève, hein, c'est le film d'après, bah, mine de rien, dans ce film réaliste, qui prend cadre dans un décor réaliste, on est du côté de la destruction, on suit un personnage masculin, et le seul personnage féminin du film d'après, c'est la femme de ce personnage-là. C'est un très beau film, moi j'adore, hein, c'est mon Miyazaki préféré, Le Vent se lève. Et c'est la femme de ce personnage-là qui, comme par hasard, symboliquement, meurt en fait. Plus il crée cet avion, plus il le dessine, plus il s'approche du but d'avoir créé cet engin de mort, en fait, plus elle meurt. Et c'est très intéressant de voir que quand Miyazaki prend le parti de la féerie totale, eh bien on va beaucoup plus du côté, bien sûr, d'une célébration des puissances du féminin, et donc on en profite pour célébrer les puissances de la vie. Quand il va du côté du réel et de l'histoire et de ce qui s'est vraiment passé, et donc qu'on va du côté des vrais acteurs de l'histoire qu'il a connue, à savoir des acteurs hommes, on est du côté des puissances de la destruction. Et c'est assez amusant de les mettre en parallèle et de voir que quand Miyazaki laisse son imaginaire déborder et qu'il confie les vraies puissances au règne féminin, il éteint de sa main les puissances de la destruction et de celui qui veut exterminer la race humaine. Bref, dans un délire complètement facho, mais qui n'est pas, bien sûr, sans rappeler les élans extrémistes qu'a connu Miyazaki. Il ne faut pas oublier que, je vous remets un peu le contexte, mais ça paraît un peu anodin comme ça de célébrer les puissances de la vie et de l'écologie, mais on parle d'un réalisateur japonais, né en 1941. 1941, c'est l'année de Pearl Harbor. 1941, c'est évidemment la Deuxième Guerre mondiale, l'entrée en guerre du Japon, conflit avec l'Amérique, destruction après par la bombe atomique, reconstruction pendant des décennies sous la tutelle humiliante du Japon et du général MacArthur. On est dans cette perception-là. On est dans quelqu'un qui a été traumatisé, en fait, par les propres élans destructeurs du Japon. N'oublions pas que le Japon était une armée qui a colonisé, qui a détruit, qui a contribué à sa propre ruine, et donc qui a divinisé, qui a contribué à diviniser, à attribuer beaucoup d'importance symbolique à des figures comme l'empereur, par exemple, qui était comparé lui-même à une divinité. Et donc Miyazaki est aussi un petit peu dans un rapport introspectif et un peu contradicteur avec l'histoire de son propre pays. Lui, il considère que les puissances de la vie et de l'amour et de ce qui, en fait, ne crée pas de la destruction sont plutôt du côté du féminin. Et tout le film va être acheminé vers ça, vers une espèce de... Bon, je ne le dirai pas comme ça pour... des enfants, mais on va de plus en plus aller se retrouver, presque, on va retrouver le ventre féminin, on va retrouver la protection de cette divinité, Grande Mama, qui d'ailleurs est une divinité qui n'est affiliée à aucun imaginaire, aucune mythologie spécifique. Une fois encore, on est dans une vision animiste. Les éléments, la nature s'éveillent et sont animés par des divinités. On est dans une perception animiste, bien sûr, qui peut renvoyer à certaines philosophies et traditions orientales, mais on est surtout dans quelque chose de très syncrétique qui va piocher partout. Et chez Miyazaki, la nature est une puissance en soi, est une puissance de nature féminine. Vous allez voir que ce qui est très amusant, c'est que jusqu'au bout, ces puissances-là vont triompher. Jusqu'au bout, ces puissances-là vont imposer leur ordre et leur volonté. Vous allez voir que, je vais vous montrer à toute fin du film, où en fait, l'océan a bien recouvert la surface de la Terre, mais Sosuke et Ponyo, grâce à l'intrépidité de Sosuke, grâce au pouvoir de Ponyo, grâce à la magie de Ponyo, vont s'en sortir et vont rejoindre Lisa et des personnages secondaires qui sont des vieilles femmes qui étaient dans un hospice, une espèce d'EHPAD, et qui vont tous être accueillis dans la protection de cette divinité, donc la mère de Ponyo, une espèce de cavité comme ça qui les protège des océans, donc en fait retour à un ventre maternel. Et vous allez voir que ici, les vieilles femmes retrouvent leur agilité, peuvent à nouveau s'élever sur leurs jambes et marcher. Tout le monde, en fait, revit. Et vous allez voir que jusqu'à la fin, ce qui est amusant, c'est que de manière comique, jusqu'à la fin, c'est Ponyo qui impose le scénario de son histoire. C'est Ponyo qui décide comment son histoire va se réaliser et comment sa volonté jusqu'au bout doit triompher de ce qu'on lui dit de faire. Donc je vais vous montrer la toute fin du film qui est très, très, très mignonne, très kawaii, très amusante. Et qui, jusqu'au bout, fait d'abord triompher ce que Ponyo et les puissances de la vie ont décidé de faire triompher. Je vous montre ça, c'est très mignon, et soyez évidemment très attentifs à la fin, la toute fin, le gag de fin. J'adore cette toute fin, je la trouve très amusante, parce qu'elle montre vraiment bien que jusqu'au bout du film, c'est Ponyo qui détient les rênes de l'histoire, et que quand bien même on croit que la fin, ça va être de retrouver le père qu'on n'avait pas vu, eh bien non, hop, elle la parasite, et c'est sur le baiser que ça se terminera, et bien évidemment un baiser dont elle est à l'initiative. inversant une dernière fois les codes du conte de fées traditionnel où quand une princesse doit attendre son baiser, elle attend son baiser 100 ans sur son lit, parce qu'on attend les princes, voilà, et là, chez Miyazaki, on n'attend pas, on décide, et c'est, on sort et on s'impose, on impose son désir et sa volonté. Voilà, énième inversion des codes du conte de fées avec lesquels joue Miyazaki, sans jamais, bien sûr, les rejeter, mais il joue avec, pour évidemment faire triompher dans ce film qui est vraiment, je pense, vraiment le plus explicitement une ode aux puissances féminines et aux puissances de la vie, faire triompher le personnage de Ponyo qui est évidemment héritier de ses puissances. Et ce qui me fait rire, c'est vraiment que les personnages masculins sont vraiment absolument mis, enfin pas mis à mal, mais il n'y a aucune grandeur n'émane d'eux, quoi. Je veux dire, le patron de l'EHPAD qui voit arriver les personnes âgées à un nez rouge comme un ivrogne, il a des tout petits yeux, le père sera réduit à hey, en fait on n'en a rien à faire, on ne va pas te rencontrer, et la dernière figure qui pouvait incarner un peu de suspense, qui était le sorcier, s'excuse platement, puisqu'il aurait été le seul idiot de l'histoire, puisque la vraie puissance était du côté de Grande Mamar. Et j'aime bien aussi la façon dont Miyazaki célèbre toutes les puissances possibles et toutes les formes possibles du féminin. On n'est pas dans une version, une fois encore, essentialiste. Je veux dire, entre Lisa, qui n'est même pas appelée maman, et Grande Mamar, qui est, bien sûr, sur, comme elle est la divinité de toutes choses, elle est une vision, un dessin glorieux, elle a les cheveux très très longs, on dirait qu'elle ne s'arrête, son corps ne cesse jamais, elle est vraiment, elle a les marqueurs de féerique, hein, de la féminité glorieuse, et Lisa qui est vraiment sur une féminité plus androgyne, sur quelque chose de plus intrépide, et même Ponyo, mine de rien, j'arrête pas de l'associer au féminin, mais Ponyo elle est plutôt des cheveux courts, elle est pas avec des couettes ou des cheveux longs, on est toujours vraiment, vous savez, exactement comme ce que je vous disais avec Chihiro, je vous disais, la frontière entre les formes, le caractère des choses est toujours sur une ligne floue et tout peut être son inverse, son contraire, et les frontières n'existent jamais vraiment chez Miyazaki. De même qu'il n'y a pas vraiment tout ce qui serait du côté du masculin, tout ce qui serait du côté du féminin, même quand tu es dans une ode au féminin, une célébration de la puissance de la vie, tout est toujours sur des lignes ambiguës, ambivalentes, et rien n'est essentialisé. On échappe vraiment à toutes ces conventions-là. J'ai regardé l'heure tout à l'heure, j'ai vu qu'on avait dépassé midi. Je pense qu'on peut s'arrêter là.